quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
Cette enquête, cette recherche, ce récit, je ne sais pas trop comment l'appeler. En tout cas, pas un roman. Ce n'est pas un roman. Commence un jour d'août, dans un Paris d'une chaleur de chaudron. Je suis en terrasse, à boire un seau de diabolomante où cliquettent des dizaines de glaçons. Mes cuisses collent à la banquette comme deux vieilles sucettes. Je déteste Paris au mois d'août, mais j'y suis désormais condamné. Après 15 ans de vie en Angleterre, j'ai été viré de mon travail à l'université et donc renvoyé du pays, banni de l'existence que j'avais choisie et aimée depuis tant d'années. J'ai dû me réinstaller en France et j'en subis les conséquences, comme le fait d'avoir peu d'argent, des plans professionnels raréfiés, une grosse panne d'écriture et des cuisses qui collent aux banquettes comme des sucettes. Je n'idéalise pas l'Angleterre, mais jamais elle n'aurait permis qu'il fasse aussi chaud. Je suis en terrasse ce jour-là pour prendre un verre en compagnie d'une très vague connaissance travaillant dans le milieu du théâtre jeune public, qui m'a écrit pour qu'on se voie. Elle est restée elliptique dans son message, que d'ailleurs je ne retrouve plus sur mon téléphone portable. Mais je me doute qu'elle veut me demander d'écrire quelque chose pour elle. Et mes économies et mon inspiration ont tellement fondu que j'attends beaucoup de ce rendez-vous surprise. Hier soir, je me disais, j'espère que ce sera un gros contrat, par exemple... Clémentine, je voudrais que tu nous écrives la prochaine grande comédie musicale pour enfants à succès, comme Podane, mais encore plus à succès. Hélas, nous n'avons que 20 000 euros à te proposer. Je dirais, oh, allez, d'accord, avec un sourire généreux. En attendant, je me tords la tête, presque à 180 degrés, pour tenter de repérer cette femme dont je ne me souviens que très mal. Je ne la vois pas arriver. Elle apparaît brusquement devant moi, me faisant sursauter. Elle a des yeux verts, brochés, un nez piquant. Je ne la reconnais pas du tout. Elle me dit « Tu me reconnais ?» Je réponds « Mais oui, bien sûr. » Vous l'aurez compris, elle ne l'a pas du tout reconnue.
Mais je pense, oui.
Ce texte, c'est le début des Facétieuses, du titre « Les Facétieuses ». C'est le nouveau roman de Clémentine Beauvais. Et pour cette rentrée de notre magnifique émission « On les connaît », vous savez quoi ? On a une surprise. On a rencontré Clémentine Beauvais pour vous.
En vrai ?
Oui, oui, auditeur de Only Quanou, on a rencontré Clémentine Beauvais et on l'a interviewée. Alors, on va parler très longuement de ses facétieuses un petit peu plus tard dans l'émission. Mais avant tout, déjà, bonjour. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Bonjour Véro.
Bonjour Monsieur Simon.
Bonjour Philippe qui fait toujours la régie. Il est toujours avec nous. En plus, il paraît que c'était son anniversaire. Alors, joyeux anniversaire, non, Philippe. Ouais, voilà. on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Only Quanou. On ne les compte plus.
Bah non.
En tout cas, c'est la 44e émission. Moi, je compte les émissions.
Ah oui, c'est ça.
Aujourd'hui.
D'accord.
Voilà. Donc, on est reparti pour une saison complète d'Only Quanou. Vous allez encore nous subir. Pendant toute une année, on va vous parler de plein de livres de jeunesse qu'on a adorés.
On va vous saouler avec les livres jeunesse.
Vous avez lu des livres bien pendant l'été ?
Ah oui.
Vous allez nous en parler ?
Oui.
Eh bien, moi aussi. Donc, c'est parfait. Donc, j'espère en tout cas que vous prenez beaucoup de plaisir avec cette émission. Nous, on prend beaucoup de plaisir à la faire.
C'est ça.
Et comme je vous le disais, on a une grande surprise pour cette rentrée. On va essayer de le faire plus souvent. C'est-à-dire qu'on a rencontré Clémentine Beauvais qui venait à Laval pour une rencontre avec des ados. Et donc, on l'a interviewée sur son dernier livre, Les Facétieuses. Donc, tout à l'heure, on a une petite surprise, une petite interview qui j'espère, vous ravira. Mais en attendant, on va parler de tout autre chose, de plein de livres. Des livres pour les tout-petits, des livres pour les plus grands. Avant ça, on va écouter un peu de musique. Et comme les facétieuses, ça parle... Vous savez de quoi ça parle ?
De marraine.
De marraine.
Et de fée. De marraine, la fée.
De marraine, la bonne fée, exactement.
La bonne fée, pardon.
Alors moi, j'ai regardé... Pas la mauvaise. J'ai essayé de trouver des fées que j'aime bien, mais j'aime pas trop les fées, en fait, je crois. Donc j'en ai trouvé une que j'aime bien, c'est la marraine, la bonne fée, dans Podane.
Ah oui.
Vous voyez le podane de Jacques Demy.
Oui.
Eh bien, il a main de la fée. J'aime bien parce qu'elle est un peu féministe.
Voilà.
Hein, elle est un petit peu rentre dedans. Ouais. Donc, la BO aujourd'hui de cette émission, ça sera Podane de Michel Legrand, le film de Jacques Demy. Donc, vous allez vous replonger tout ça. Si vous ne l'avez pas vu ou si vous l'avez oublié, allez revoir ce film. Il est absolument magnifique. Donc, on va commencer juste simplement par l'intro de Podane. C'est l'intro de Michel Legrand. On écoute ça. On les voit tous arriver.
Ah oui, moi je m'installe, je vous laisse, hein, je regarde le film.
Alors pour vous rappeler un petit peu Podane, donc c'est donc un film musical français écrit et réalisé par Jacques Demy qui est sorti en 1970. Et c'était la troisième collaboration entre Jacques Demy et Catherine Deneuve. C'est vraiment le duo qui a fait émerger
cela. Ah oui, c'était après Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort,
tout à fait. Et c'est là où on voit encore une autre facette du talent de Jacques Demy, ce qu'on appelle le demi-monde, avec une sorte de comédie musicale, référence féerique, poétique. Et puis pour l'actrice aussi, de devenir une icône.
De Michel Legrand aussi, c'est en musique.
Et c'est ce que j'allais dire, c'est que dans ce duo, il y a aussi une troisième personne, donc c'est donc un trio, puisqu'évidemment, il y a le travail de Michel Legrand, présent comme à chaque fois aux côtés de Jacques Demy. Et les trois ensemble, je pense, c'est ce qui a fait l'un des plus grands succès au box-office de Jacques Demy.
Super ingrédients pour une belle recette.
Et ils écrivaient, Michel Legrand écrivait ça là-dessus, en fait. Ils disaient que Podane était la première incursion, pour lui, dans le genre du merveilleux. Et Jacques Demy le conforte dans sa première idée de mélanger des styles volontairement contrastés. Donc c'est vrai qu'il y a du baroque, il y a du jazz, il y a de la pop. Et tout ça, ça va faire naître la féerie du conte. Et pour le compositeur, donc pour Michel Legrand, la convergence de toutes ces influences aboutit à un temps imaginaire, à un entre-deux temporel. Voilà, donc on va écouter pendant toute cette émission quelques extraits de Podane. Et je sais que c'est en plus un film qui tient particulièrement à cœur à Clémentine Beauvais. Elle le cite d'ailleurs dans le début de son texte. Donc c'était un petit hommage aussi qu'on lui rendait. On va commencer par parler un petit peu de livres pour les tout-petits.
Eh bien oui.
J'ai vu que vous aviez amené une petite panthère. Oui. Et moi, ça me donne très envie.
Petite panthère de Chiara Renori chez Rue du Monde. Donc c'est un livre avec de la tendresse, une infinie tendresse, de la mignonitude, mais là, c'est pas un joli mot, mais c'est vraiment ça, c'est adorable. Des devinettes en plus, à chaque fois, et une symphonie de sens et de sensations, ce sont les ingrédients principaux de cet album délicieux où nous accompagnons Petite Panthère dans la découverte de la vie et de l'amour de sa maman, dans son exploration de son environnement, avec des illustrations très douce, une belle technique de gravure sur bois, avec des tons verts, jaunes, tendres, nappés de noir, qui donnent envie de toucher les lianes. Donc le principe, les lianes, parce que la petite panthère, elle est dans la jungle, hein, et le principe, c'est que on va vraiment évoquer les cinq sens. Y a une première page dans la nuit, et c'est marqué « Elle est douce ». Elle est douce et on déplie, ça fait trois pages, et c'est « Qu'est-ce qui est douce ?» Les pattes de la petite panthère l'ont touchée. Alors, on ne sait pas encore qui est douce. « Elle est douce, les pattes de la petite panthère l'ont touchée. Elle sent bon, les narines de la petite panthère l'ont sentie. » Et là, elle est environnée de fleurs odorantes et colorées. Elle est aussi sucrée. La bouche de petite panthère l'a goûtée. Elle est noire et pleine de vie. Les yeux de petite panthère l'ont vue. Et elle est silencieuse. Et même si elle est silencieuse, les oreilles de petite panthère l'ont entendue. Elle est enfin grande et forte. Et là, sur cette double page qu'on déplie, la petite panthère est dans un arbre, un bel arbre d'un très beau vert. C'est magnifique. Qui est-ce ? C'est ma maman. Et là, on voit ces deux fauves, la maman et son bébé, de noir confondu avec leurs yeux émeraudes. C'est magnifique. Et sur la dernière triple page, puisque à chaque fois, c'est des rabats que l'on déplie, on va retrouver tous les éléments de ce livre un peu devinette, et qui est doux, voilà, qui sent bon, qui est sucré. C'est sa maman. Et c'est une belle ode à la maman de Petite Panthère. Petite Panthère le sait bien.
C'est très, très beau, effectivement. Chiara Reineri, qu'on a aussi découvert là, dans un album qui est sorti ces mois-ci, qui s'appelle Ma maison à moi, toujours chez Rue du Monde.
Alors oui, je ne l'ai pas vu encore. C'est pour ça que je cherchais, mais ouais. Je ne l'ai pas vu.
Eh bien, moi aussi, j'ai un très beau petit livre pour les tout-petits. Ce livre s'appelle Petit ours, petit ours. Ce n'est pas moi qui bègue, c'est une répétition du titre. C'est un livre de Marine Schneider qui fait suite à Grand ours, petit ours, mais aussi à Tout petit ours, petit ours.
Pas Petit ours brun.
Non, pas du tout. Là, on est loin des clichés.
D'accord.
De Petit ours brun.
D'accord.
Marine Schneider, on l'avait découvert pour des albums pour les plus grands, notamment avec Tu t'appelleras Lapin, qui était publié chez Versant Sud, Le chant des loups chez Albin Michel. Voilà. Donc c'est quelqu'un qu'on suit avec beaucoup d'attention, puisque son travail est vraiment de qualité. Et là, elle s'adresse vraiment pour les tout-petits avec cette série autour de Petit ours. Donc dans Grand ours, petit ours, il y avait le jeu du grand petit. Dans Tout petit ours, petit ours, c'était le principe inversé. Le petit ours devenait grand ours. Et puis là, petit ours, ben voilà, c'est deux ours
même taille,
qui font la même taille. Ils se retrouvent à l'école ou en tout cas ensemble. Et ce livre va jouer sur à la fois les différences, les points en commun entre ces deux petits ours, et puis tout ce qui va les différencier. On va voir que chacun peut apporter à l'autre. Chacun, par ses différences, en fait, apporte quelque chose de nouveau à l'autre, qui peut faire peur de temps en temps, mais qui peut aussi amener un peu plus loin l'autre. Voilà. Donc c'est un très beau livre sur être ensemble, sur être différent et accepter ses différences. Et puis, on retrouve le talent, en fait, de Marine Schneider avec un dessin très délicat, tout à la peinture, avec des aplats en fait très simples, des couleurs très pas vives, hein, plutôt
pas pastel non plus.
Non, voilà, mais c'est un peu entre les deux.
Ouais. Et elles sont originales d'ailleurs.
C'est ça.
C'est des verts profonds aussi.
Bah, c'est pas forcément des couleurs qu'on voit pour la petite enfance.
Pour la petite enfance, ouais.
Et vraiment, moi, je suis très très fan de ces trois albums. Donc, si vous voulez les découvrir, je vous invite vraiment à aller rechercher les trois, parce que les trois abordent des sujets complètement différents. On est des fois proche de l'imagier. Il y a beaucoup de sensibilité. Ça reste vraiment tout petit, mais avec des petites histoires. Donc, c'est vraiment très chouette.
Et puis celui-ci, c'est Cambourakis.
On est chez Cambourakis, ouais, tout à fait.
Cambourakis.
Exactement. Oh. Et puis là, c'est aussi sur l'amitié, sur les copains, les bons copains. Donc voilà. Donc il y a plein de belles choses dans ce petit album que je vous invite à découvrir. On passe pour les un petit peu plus grands.
Et
puis vous vouliez nous parler d'un petit chien.
Eh bien oui, de Nickel le Teckel, de Juliette Lagrange. On avait bien aimé, alors je suis en train de chercher, c'est Hulotte que j'ai bien aimé, qui se passait aussi dans Paris. Alors là, on est chez Albin Michel. Et moi, dès que je vois un livre sur Paris, je reste scotchée. Et là, c'est Paris, vu de la hauteur d'un petit chien, donc une longue saucisse à pâte, qui s'appelle Nickel, un beau teckel. Il habite dans une famille où il y a beaucoup de chiens, des grands chiens qui gagnent beaucoup de concours. Ils sont très forts, enfin ils sont très doués. Et Nickel est assez maladroit, il a du mal à être à la hauteur de ces grands chiens. Mais pourtant, il a du talent. C'est un artiste, c'est un créatif. Et dans Paris, il va trouver une inspiration immense et beaucoup, beaucoup d'éléments naturels, paradoxalement. Il va être beaucoup récupérer des arbres, de l'herbe, enfin voilà, pour créer. Il fait presque du land art, Nickel. Et il fait feu de tout bois, de tout petit bout de bois ramassé. Sa chance, il va la trouver grâce à son flair. Il capte des odeurs, là je cite, de piment bleu outre-mer mélangé à une odeur de poils de perdrix et de cumin orangé. Donc il a déjà le flair vraiment affûté pour reconnaître un environnement artistique de peinture. Et il suit son instinct dans la nuit parisienne et arrive dans l'atelier d'un peintre sous une verrière. C'est ça aussi qui m'attire énormément dans ses dessins. Une verrière éblouissante, une verrière parisienne avec aussi des toits de zinc à côté. Enfin, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de vues sur les toits aussi. Et on se croirait vraiment à Paris. Un Paris un petit peu comme autre... Enfin, un Paris qui n'aurait pas trop bougé. Mais c'est un côté un petit peu vintage, mais sympa, quoi. C'est vraiment très chouette.
C'est pas le Paris du périph' avec les voitures
non.
partout, quoi.
Bah non. Bah, ça non plus, ça va pas bouger.
Non.
Donc en prime d'une histoire drôle et touchante, on rit beaucoup. On se balade avec bonheur dans un Paris donc un peu daté. Et ces toits de zinc et des façades, alors les fameuses façades, vous savez, comme les proues de navires là qui fendent, on a l'impression qu'ils vont avancer et fendre d'avenue en avenue. Et ça, c'est bien, super bien représenté dans le livre. Et on est aussi invité à l'intérieur des vieilles bâtisses parisiennes et ça, c'est magique. Donc merci Nickel, merci beaucoup. Et merci Juliette Lagrange aussi.
Voilà. Juliette Lagrange, en plus, je trouve qu'elle est très forte pour représenter ces milieux urbains. On l'avait déjà dans Hulot.
Mais au milieu
avec
de la nature.
Avec une végétation.
Ouais, c'est incroyable. Incroyable. C'est...
Oh, elle le fait très bien. Elle, fait toujours... elle avait fait aussi Gabriel, qui était très beau à la joie de lire.
Oui, j'ai vu. Regardez-moi cette verrière, comme elle est belle. Éblouissante, illuminée dans la nuit. C'est trop beau.
Eh bien, moi, je vais vous amener un petit peu ailleurs, puisque je vais plutôt aller vers la mer. Et je vais vous proposer un album que j'ai adoré, franchement, une très belle découverte. Ça s'appelle Le Détour. C'est un livre de Rosane Brécard. Rosane Brécard, je ne la connaissais pas. C'est une femme qui est originaire d'Ennebon, dans le Morbihan. Et puis, elle a fait ses beaux-arts à Bordeaux. Et elle a vécu à Bruxelles. Et maintenant, elle est retournée vivre en Bretagne. Et ça se voit, parce que... Rosane Brécard, je pense qu'elle passe son temps avec un carnet de croquis à faire des petits dessins. Son trait nous donne à imaginer cela. Enfin, en tout cas, moi, je l'imagine sur les bords de mer en train de dessiner. Et Le Détour, c'est vraiment un livre qui va nous amener dans voilà, une sorte d'aventure, l'aventure d'un frère et une sœur. Ce frère et cette sœur, en fait, vont louper leur car le matin pour aller à l'école. Est-ce que ce ne serait pas un signe pour eux de passer une journée en dehors de l'école? Donc les deux vont décider de ne pas chercher forcément à retrouver le chemin de l'école, mais de se faire une journée pour eux. Cette journée, ils vont prendre une barque et traverser un bras de mer, ils vont aller dans un entrepôt portuaire, fouiller un petit peu à droite à gauche, ils vont escalader une falaise, ils vont se baigner tout nus dans une mer glacée. Mais surtout, ils vont marcher, ils vont regarder ce qui se passe autour d'eux. Il va y avoir une espèce de course-poursuite avec un policier qui essaie de les arrêter, puis il le retrouve plusieurs fois de suite. Il court à travers champs, il regarde la nature, il regarde les plantes, il regarde les paysages. En tout cas, ils vont se perdre, passer une vraie journée buissonnière auprès de la mer. La mer est toujours présente, elle est très très belle dans l'image. Et puis cette épopée, ça sera aussi l'occasion pour eux à la fois de se parler, de se disputer, de se réconcilier, en tout cas d'éprouver leur lien en tant que frères et sœurs, et puis de marquer aussi leur ancrage dans leur territoire, dans leur environnement. C'est un album magnifique, tout en poésie, tout tout en douceur, avec de très très belles planches, des aquarelles ou des dessins aussi au crayon. Les personnages sont souvent faits au crayon. Il y a un chien qui lui chie un peu partout aussi. Ça se lit presque comme une BD, parce qu'on suit vraiment les personnages. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une sensibilité dans le dessin qui m'a fait penser un petit peu, vous savez, au livre de Delphine Perret où elle raconte ses souvenirs d'enfance. Eh bien, je trouve qu'il y a ça dans ce livre-là, ou les livres de Lorraine Capelli, voilà, tous ces autrices comme ça qui nous proposent des ouvrages un petit peu différents. En tout cas, c'est une merveille de graphisme. Moi, j'ai vraiment craqué sur le dessin. Et puis, on se dit, oh là là, mais l'école, c'est super. Hein. Mais de temps en temps, une petite escapade comme ça.
On a l'impression que vous avez raconté une vie alors que c'est une journée.
C'est ça. C'est vraiment ça. En tout cas, c'est une vraie belle découverte d'une autrice. Donc, Rosane Brécard, ça s'appelle Le Détour. Et c'est publié chez l'excellent éditeur La Partie. Voilà. On poursuit notre chemin et on monte un petit peu en âge encore avec peut-être des premières lectures, une première lecture d'une collection qu'on aime bien.
Je la retrouve. Ah là voilà.
Rosalie
de Ninon Dufresnoy et Julien Martinière chez Voce Verso. Donc cet éditeur, j'allais dire ce petit éditeur, mais c'est parce que je tiens un petit livre dans les mains. La collection Ginkgo qui décline Je dévore. Alors, je ne sais plus ce que. Trois trèfles, c'est Je dévore, c'est les niveaux de lecture sont un petit peu différents. Donc celui-là, c'est le max qu'ils ont dans leur collection.
Mais ça reste des textes courts.
Ce sont des textes courts et donc c'est un tendre road movie avec Rosalie. Je dédie d'ailleurs ce livre à Philippe dont c'est l'anniversaire parce que il aime beaucoup une Mehari vert kiwi dans laquelle maman conduit sa tribu entre vent, soleil et pluie, coince parfois un bouchon dans le petit trou du fond, verse de l'eau pour que les pieds barbotent quand il fait très chaud, ou encore emmène ses rejetons dans la nuit saucissonnés dans un gros et grand duvet. Donc au mépris de toute sécurité, hein, là c'est pas très politiquement correct, hein, c'est sûr, Rosalie est un élément de liberté absolue, cahotant à travers toutes les natures et tous les temps. C'est une sorte de nounou des enfants qui, avec leur maman, échappent aux tristesses du quotidien. Il y en a un petit peu, en second plan, on va dire. Et ils sont nichés au fond de la carrosserie vert kiwi de Rosalie. Beaucoup de transgressions et d'impertinences dans ce petit texte savoureux au parfum des années 70, avec des illustrations vert kiwi et violine très très joyeuse. C'est un petit régal. J'avais déjà présenté quelques titres de cette collection chez Voce Verso et j'en attends d'autres, beaucoup d'autres.
Oui,
et si d'autres éditeurs pouvaient avoir cette créativité sur des premières lectures, je suis preneuse et je ne suis pas la seule.
Bon, déjà, en tout cas, on félicite les éditions de Voce Verso.
Oui,
bien
sûr.
Ils n'ont qu'à le faire.
Exactement. Exactement, mais Voce Verso, continuez.
C'est ça. Mais en tout cas, on est vraiment content d'avoir des textes comme ça qui changent effectivement de l'ordinaire et d'avoir aussi des formats qui ne sont pas ceux qu'on a l'habitude de voir. Nous sommes
tout
pour le changement. Eh bien moi, vous savez quoi, j'ai envie de vous parler de tendresse.
Oh, voilà. Oui, Simon. Monsieur Simon.
Avec un très très beau livre. Alors, il peut être mis en première lecture, il pourrait être mis en album, il pourrait être mis en bande dessinée. Ce texte s'appelle « Merci pour la tendresse ». Il a été écrit par Myrène Duval et illustré par Emma Constant. Ça a été publié au Rouergue. Et c'est un vrai, vrai, vrai gros coup de cœur. Myrène Duval, on l'avait déjà rencontrée en tant qu'autrice. Elle avait écrit en dos à dos un texte qui s'appelle « Délit de solidarité ». Qui était un très beau texte. Et puis un texte pour les plus jeunes, qui était plus drôle, qui s'appelle « Mon chien, Dieu et les poké-trucs ». Et Emma Constant, elle avait découvert à l'illustration, puisqu'elle avait illustré les romans de Pascal Prévost, L'enlèvement du W et la montée des eaux.
Ah oui.
Vous les aviez présentés, il me semble. Et là, ces deux autrices, on les retrouve ensemble pour ce Merci pour la tendresse. Alors, comme je vous l'avais dit en introduction, c'est entre le roman, il y a des parties vraiment romancées, l'illustration très importante, la bande dessinée, et on va naviguer comme ça entre ces deux eaux. Pour découvrir les aventures de deux ou trois personnages, en fait. D'abord, il y a une petite fille. Cette petite fille, elle a 8 ans. On l'appelle Doudou, ma crevette, Minus, Louloute, Baby, Chaton, mon oiseau, mon castor. Ça, c'est les noms que lui donne sa tata. Sa tata, c'est une dame bien, qui veut du bien, et donc qui se rend bien compte que la maman de la petite fille, en fait, est franchement défaillante. Elle... pense qu'elle est un petit peu déprimée. En tout cas, elle est très fatiguée tout le temps. Elle a envie de rien faire tout le temps. Mmh. Et puis, elle aime bien boire les bouteilles rouges. Voilà. Donc, la petite fille, elle vit avec ça. Elle vit avec sa maman. Il y a plein de tendresse pour sa maman. Même si, en même temps, elle est consciente de son état. Et la tante vient de temps en temps voir la jeune fille et essaie de la sortir un peu de son quotidien qui n'est franchement pas gai. Alors, le parti pris de Mayrène Duval, c'est de parler de ces sujets-là, mais d'en parler avec beaucoup de tendresse, comme le dit le titre. C'est-à-dire que jamais on n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans un scénario catastrophe. En fait. On est plutôt, c'est toutes les portes de sortie. Tout ce qui a pu être lumineux, en fait, est pris. Et il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup de second degré. En tout cas, la relation entre la tante et la jeune fille est magnifique, est très très belle. C'est un texte qui bouleverse vraiment parce que ils ont su Mayrène Duval a su dans son écriture donner ce souffle justement très positif, à la fois gai et en même temps terriblement dur quand on le lit.
Bah oui.
Et puis le dessin d'Emma Constant arrondit tout ça, permet aussi de montrer une forme plus légère. En tout cas, voilà, c'est un texte très très fort que je vous conseille vraiment. C'est un sujet qui est assez peu abordé dans la littérature de jeunesse, la dépression, l'alcoolisme, voilà, tous ces termes-là, ou alors dans des dimensions dramatiques. En tout cas, là, pour cet âge-là.
Pour cet âge-là, oui.
C'est ça, parce que ça s'adresse vraiment à des enfants, 8-12 ans, enfin voilà, on est dans cet âge, vraiment du roman jeunesse. Je l'avais rarement vu. En tout cas, voilà, c'est un très très beau livre. Je vous invite. Puis l'objet est joli en plus.
Mais tout présente... à fait. C'est hors collection de tout.
Oui,
là.
C'est ça. C'est un livre à part, vraiment.
On dirait un peu une bande dessinée aussi.
Il pourrait complètement être en bande dessinée, parce que même dans la forme, il y a des bulles, il y a des cases. Il n'y a pas de cases, mais il y a des bulles en tout cas. Donc c'est, voilà, c'est une sorte d'objet hybride, mais trop trop beau.
C'est vrai qu'il est beau. Ouais.
Et j'avais envie de vous le présenter. Un autre objet hybride qu'on avait très envie de vous présenter, c'est un texte de quelqu'un qu'on aime beaucoup ici. Cette personne, c'est Thomas Cotto. Et on avait envie de vous en lire un passage. Donc pour ça, il fallait que ce soit le livre coup de cœur du mois. Ça mérite un jingle coup de cœur.
Petite ou trop géante, ou jamais comme il faut. J'avais pourtant le goût d'être un sourire immense. J'avais déjà l'envie d'affronter tous les labyrinthes. On m'a connue citrouille au détour des jardins, j'étais ce que j'étais. On s'en est désolé. Par bonheur, les grands seigneurs ont pour nous de plus jolis dessins. Je pouvais être tellement mieux. Une fleur attitrée, exquise, disponible... Un hochement de tête à tous leurs éloges. C'est vrai, je pouvais être tellement mieux et je n'y avais pas songé. Alors, on m'a fait somnoler sur des matelas d'épreuves. On a caché et camouflé les plus petits grains de poids pour tester mon courage. Fortifié du brouillard et des hautes épines, pour eux j'étais ce soupir endormi. Mais au souffle lent des dragons de geôle, bien sûr, j'ai espéré le monde. Pourtant, page après page, on m'a regardé pousser. Bien à l'abri du vent, bien privé de soleil, j'aurais pu me faner 100 fois, 100 nuits, 100 ans. Du coin de l'œil, certains châteaux de verre font de si jolies prisons. Seulement, nourri, logé, dansé, on ne dit pas qu'on rêve à mieux. On en finit par oublier que rien ne brille à l'intérieur des grands salons. Et face au grognement du maître, aux griffes à éviter, on sait qu'il suffira de dire oui, oui à tout. Alors oui, j'ai bu au bol qu'on me présentait. Dans certaines maisons délaissées, je suis devenue chaise et puis lit à force d'impatience. Dans le choix des saisons, j'ai accepté le givre et mon destin d'allumette. Dans le reflet de certains fruits, j'ai fait toute confiance aux sombres des miroirs. Qui pouvait m'en vouloir d'avoir de l'appétit. Pourtant, je n'ai pas demandé les serrures. Je n'ai pas réclamé les portes interdites, les tours vertigineuses, les balcons étroits, ni aucune chambre secrète. Celle où on m'a si souvent parquée, pour mon bien, celle qui fabrique toutes les curiosités dangereuses.
Je n'ai pas souhaité être à genoux, les mains en serpillière et les reins épuisés, ni tutoyer le carrelage quand d'autres vous voyaient la fête. Qu'importe si, depuis la nuit des temps, faire volter la poussière des maisons n'est qu'un espoir de bal. Oh, c'est vrai, j'ai dansé, beaucoup, au bras de certains princes, si proches des plus grands rois. Et du tout premier pas jusqu'au dernier talon, des valses ébouriffantes, des valses ébouriffantes, des valses, sans qu'on ne me laisse jamais le choix de mener la soirée. Aux yeux de tous, heureuse, aux yeux de toutes, enviable. On a même présumé que j'épouserais mon père. Ce soir-là, qu'elle soit d'orage, de lune ou de soleil, aucune robe n'aurait pu me dissimuler vraiment. Alors je préfère la fuite, sans souliers, sans licole et sans complaisance. Plus besoin d'apparat ni de déguisement, plus d'entraves de coiffures imposantes, ni le mutisme de mon corps. Je ferai fondre les barreaux tenaces, j'escaladerai tout ce qu'il faut de grilles, je quitterai l'oreiller de mes cages de pierre, je nagerai à contre-courant, je galoperai à corps perdu, je dévorerai jusqu'au vent des plaines, je volerai sans tapis ni poussière d'aucune fée, je soutiendrai chaque regard, j'affranchirai le génie de ma lampe, j'accepterai tout humain qui sera mon égal, j'inventerai le monde sans craindre les brasiers. Je serai le chemin, le voyage et l'ivresse. C'est vrai, je suis fille d'histoire. Vous le saviez trop bien. Depuis la première ligne, sous ma pelure de refuge, se cachaient déjà des trésors d'émotions, les ramifications tenaces de mes veines charnelles. C'est vrai, je suis fille d'histoire. Pas encore écrasée, avalée ni perdue. Je ne serai plus l'échafourable, je ne serai plus l'évaporé, je ne serai plus la protégée, je ne serai plus l'excuse. Car loin, loin des supplices de papier, je n'ai plus peur de vos forêts. Ici, j'ai retrouvé ma voix. Parce qu'au bout du compte, tout au bout du compte, dans la vie en vrai, j'étais une peur bleue, mais je serai l'horizon rouge. Ce texte, il s'appelle « Aux filles du conte ». C'est un texte de Thomas Cotto. Le livre est illustré par Frédéric Bertrand. Il a été publié aux éditions du Pourquoi pas. Je pense que vous avez compris pourquoi c'était un des coups de cœur de Véronique et que c'est un des miens aussi. Comme on a parlé beaucoup de contes, on a parlé beaucoup de fées dans ce texte, ben je vous propose de retourner à notre peau d'âne et puis d'écouter la recette d'un petit cake d'amour.
S'il vous plaît, de sucre.
Ah, mais j'espère qu'avec cette belle recette, vous allez trouver l'amour et plus vite que ça.
Ah bah oui.
Cette recette comme qui a marqué les esprits. Hein. Je pense que on ne fera plus jamais faire un cake de la même façon. Allez, on va continuer notre parcours de la littérature jeunesse. Et dans les livres pour la jeunesse, il y a aussi des documentaires qui, depuis quelques années, se renouvellent vraiment. C'est-à-dire qu'il y a... Bah, c'est un secteur qui était un petit peu en difficulté, je pense, économiquement. Donc, les éditeurs ont décidé de retravailler un peu leur façon de penser le documentaire.
Raconter une histoire.
Et ça nous donne des documentaires comme celui que vous allez nous présenter, Véronique.
Comme Architecture fantastique, au pluriel. Donc, de Nancy Gilbert et de Patricia Bolaños. On dit Nios.
Il y a un tilde.
Et on est aux éditions courtes et longues. Moi, je ne savais pas. Alors, je suis une férue d'architecture, mais je l'ignore totalement. À chaque fois qu'un album me propose cette thématique, je reste pareil que Paris. C'est un peu de l'architecture aussi. Je reste dessus. Je veux apprendre. Je veux voir. Après, je veux aller voir les réalisations en vrai. Et celui-là est particulièrement bien fait.
Alors, vous allez faire des kilomètres avec ça.
Ah oui, oui, c'est le monde entier, quasiment. Donc oui, le monde entier. Et là, c'est une petite fille qui s'ennuie dans une ville terne, morne, moche. Et elle va m'emmener à chaque double page dans un voyage extraordinaire de toutes les architectures les plus créatives qu'on ait fait.
Atypique un peu. Parce qu'on n'est pas dans les grands monuments architecturaux qu'on connaît d'habitude.
Pas classique, quoi. C'est vraiment, on est dans les gros délires. Donc, il y en a certains que j'ai vus en vrai dans ma vie, dont le parc Güell, de Gaudi, à Barcelone. Et il est superbement représenté sur une double page aussi. À chaque fois, c'est une double page. Elle se balade, cette petite fille. Et on va dans le jardin des tarots de Niki de Saint-Phalle, le cyclope de Tingley, les stupéfiants tunnels de Williamson. Ça va même plus loin que d'envie de voyager. On a envie de créer son propre monde architectural. Et ce que va faire cette petite fille, parce qu'à chaque voyage, enfin à chaque page, elle va prendre un petit élément de l'architecture en question, enfin de là où elle est, pour créer son propre monde à la fin et égayer cette ville moche, terne et morne.
Moi j'aime bien parce qu'elle va voir le palais idéal du facteur cheval.
Du facteur cheval, je ne l'ai pas vu, vous l'avez vu ?
Non, pas en vrai, mais j'ai très envie d'aller le voir.
Et je trouve que cette dimension de l'architecture, ce n'est pas la première fois qu'on la voit dans un album, puisque c'est même pas expliqué, c'est cité à la fin, ils disent dans quel endroit du monde ça se trouve. Et je ne sais pas, c'est la joie même, c'est la création même, c'est très proche de l'album jeunesse, d'une certaine façon, ça s'y prête complètement.
C'est raconté un peu comme un album jeunesse.
Ah bah moi je l'ai mis en album. Hein.
Oui, tout à fait.
Non. Pas de chiffres là-dessus, je l'ai mis en album. C'est une trop belle histoire.
Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai plaisir de découvrir tous ces lieux, des lieux à découvrir en famille après.
Ouais. Faire le tour du monde.
Faire le tour du monde. D'Europe surtout.
Oui, et puis en vélo, en bateau, pas en avion.
Voilà, c'est ça. En bicyclette.
Allez, petit message.
Allez. On a trop attendu. Ça fait depuis le début de cette émission qu'on vous en parle. On vous met de la musique qui fait penser. On vous lit des petits messages. Non, c'est le moment. Donc, nous avons rencontré Clémentine Beauvais lors de sa venue à Laval. Nous avons posé quelques questions. Et nous, évidemment, l'avons interrogée sur ce nouveau livre qui s'appelle Les Facétieuses,
qui est
sorti en août, qui est un livre de fou. On en reparlera peut-être un petit peu après. Mais avant ça, on écoute Clémentine Beauvais. Allez, cadeau.
J'ai la grande joie d'être avec Clémentine Beauvais, qui nous fait l'honneur en fait de sa présence ici à la librairie. Et on s'est dit, tiens, une petite interview pour Enlique Wanou, ça pourrait être pas mal. Bonjour Clémentine.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Eh ben, c'est un grand plaisir pour nous. Évidemment, on va parler de ton nouveau roman qui est sorti fin août, c'est Les Facétieuses. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots très rapidement, en fait, parce que j'ai pas envie de le pitcher, parce que c'est très compliqué à pitcher.
C'est dur à pitcher. C'est, écoute, c'est un roman qui a lieu dans un monde où les marraines de la bonne fée ont vraiment existé. Elles ont vraiment eu des pouvoirs magiques surpuissants et s'occupaient des enfants des nobles et de l'aristocratie. Elles se sont éteintes à la Révolution française. Et bien des années plus tard, une jeune autrice désœuvrée tente de résoudre un mystère lié à l'une d'entre elles, la marraine la bonne fée de Louis XVII, qui a laissé son filleul honteusement croupir et pourrir dans une geôle révolutionnaire.
C'est tout un programme. Je t'avoue que quand j'ai ouvert le livre, tu trouves la mise en abîme donc d'un personnage qui s'appellerait donc Clémentine Beauvais. Il y a tout un univers que tu décris autour du milieu éditorial qui est vraiment chouette. Alors quand on le connaît, c'est vraiment parfait, parce que c'est que des gens qu'on connaît, c'est plein de noms réels. Cette volonté en fait de mixer le réel avec du coup de l'imaginaire, quelle était en fait l'idée derrière ça?
Ouais, alors ce que je m'empresse de dire quand même, c'est que si on le connaît pas, ça fonctionne sans aucun problème. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ça fonctionne même mieux si on sait pas du tout de qui il s'agit, les personnes réelles et le monde éditorial, parce qu'on peut à ce moment-là peut-être plus le traiter comme des personnages, ceux qui sont, hein, c'est vraiment des personnages de roman. Ça m'intéressait beaucoup de faire un pastiche d'autofiction. En fait, je m'interroge pas mal sur les formes du roman et du récit pour la jeunesse, et là c'était une période où je m'interrogeais sur la possibilité de faire une autofiction en jeunesse, en étant soi-même adulte, ce qui est quand même un peu compliqué. Et je me suis dit, mais ça serait chouette de faire une espèce de pastiche d'autofiction un peu avec ces espèces d'autofiction où un auteur, une autrice s'ennuyait, déprimé, à plein d'échecs, et puis trouve un mystère extraordinaire qui va ensuite mener à une grande enquête véridique historique. Je me suis dit, ça serait marrant de faire un truc comme ça en jeunesse, mais du coup avec quelque chose de complètement fantastique et qui suive exactement les étapes clés de l'heroic fantasy traditionnelle, avec l'acquisition d'un pouvoir magique, la perte, disons, du monde réel et l'acquisition graduelle d'une espèce de monde fantastique, l'initiation vers quelque chose qui mène, je sais pas, à une école, hein, quelque chose comme ça. Ça m'amusait vachement de reprendre ces espèces de codes de l'heroic fantasy et de l'appliquer à un pastiche d'autofiction. C'est pour ça que c'est constamment à la limite entre la réalité et la fiction tout le temps, quoi.
Bah, c'est même, ouais. On est, en tant que lecteur, on est quand même toujours troublé un peu. On a du mal à se situer justement entre est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Enfin, moi, je me suis quand même retrouvé à aller sur Wikipédia en train de faire des recherches sur les marraines de la bonne fée, est-ce qu'elles existent, voilà. Donc, nous emmène en fait vraiment dans un territoire qui est assez peu connu. Tu parles de fantasy, mais on n'est quand même pas dans un récit de fantasy pur et dur, quoi.
En fait, c'est pas de la fantasy. Moi, j'appellerais plutôt ça du merveilleux ou du fantastique, parce que c'est une espèce d'incursion du magique dans la réalité, mais aussi au sein d'un monde où cette magie-là existait ou existait, tout le monde est au courant, et finalement, bah voilà, ça fait partie des configurations du monde, les gens la plupart du temps y pensent pas, après on découvre pourquoi peut-être, et l'héroïne, elle, commence à se dire, mais c'est quand même bizarre qu'on ait eu toutes ces marraines de la bonne fée qui avaient des super pouvoirs et tout, puis on en parle quasiment jamais, on le voit à peine à l'école, les profs, ils le sautent souvent dans le programme et tout, puis elle commence à vraiment s'y intéresser. Ça, je trouvais ça très rigolo de faire un univers qui soit plus ou moins cohérent autour de ça, et qui pourtant reste totalement fantaisiste, quoi.
Et justement, tu parlais d'autofiction, c'est un principe qu'on voit assez peu en littérature française, j'ai l'impression, enfin, je sais pas si t'as des exemples.
En fait, on voit beaucoup d'autobiographies.
Voilà, c'est ça.
Moi, je trouve qu'en France, on appelle un peu par abus de langage autofiction tout un tas de trucs qui sont vraiment de l'autobiographie. C'est-à-dire que quand on voit des essais de Carrère comme, je sais pas, un roman russe, etc., c'est pas de l'autofiction, c'est de l'autobiographie. Au point que quand Carrère a publié Yoga, où il y avait des éléments qui étaient pas vrais, on l'a accusé de pas faire de l'autofiction. C'est exactement ce que c'est que l'autofiction, c'est d'ajouter des éléments qui sont fictionnels, quoi. Mais il y a quand même une grosse tradition en France de faire ce genre de récit, et c'était aussi un peu de ça que je me moque, c'est-à-dire que moi j'en lis beaucoup, hein, en tant que lectrice de littérature adulte, forcément je me retrouve à lire beaucoup d'autofiction et d'autobiographie, et je trouvais ça marrant de mélanger les codes et d'avoir ce personnage d'autrice, d'auteur assez cliché qui a pas d'idée et tout, et puis qui par contre tombe complètement dans le magique, puis je reprenais aussi des codes un peu du roman américain, par exemple à la Paul Auster, qui moi aussi me perturbait beaucoup quand j'étais ado, parce qu'on comprenait pas trop qu'est-ce qui était de l'ordre du réel, du fantastique. Je trouve ça vraiment chouette, ces espèces de genres qui brouillent les distances, justement.
Est-ce que pour toi aussi c'était un moyen de te renouveler, de donner un nouveau challenge, parce que t'es comme une autrice maintenant à succès, reconnue par les médias, il y en a pas beaucoup des auteurs jeunesse et des autrices jeunesse reconnues. Est-ce que tu sens qu'il y avait une attente à chacune de tes sorties? Est-ce qu'il y a une attente un peu forte? Est-ce que t'as une pression par rapport à ça, toi, tu ou
Ouais, je dirais que j'ai pas mal de pression, mais que je me mets aussi beaucoup moi-même, parce que c'est vrai que j'aime bien changer de forme à chaque fois. Donc, Ashtandre, qui était celui précédent, il était écrit entièrement sous la forme d'un rapport de stage. Brexit Romance, juste avant, il était écrit en franglais ou en pastiche de roman du 18e, du 19e siècle. Son jet à douceur était en vers, etc. À chaque fois, l'espèce de trouvaille formelle, pour moi, c'est un stade important de la création d'un nouveau livre, et c'est aussi une forme de renouvellement, mais aussi pour moi de pas refaire ce que j'ai déjà fait avant.
Ça, c'est important pour toi, ça. Ouais, en fait, c'est parce important. Que c'est vrai qu'il y a des auteurs et des autrices qui creusent un sillon, j'ai envie de dire. Mmh. Et c'est tout à fait louable. Enfin, c'est pas, toi, c'est plutôt l'inverse. T'as l'impression qu'à chaque fois, il faut que tu casses les codes que t'avais construits tout en restant quand même du Clémentine Beauvais. Ça, qu'on te reconnaît quand même assez rapidement dans la plume, dans l'humour. Enfin, il y a plein d'autres façons de montrer que c'est toi qui écris, quoi.
Ouais, l'humour, c'est très important. Mais c'est vrai que sinon, oui, j'aime beaucoup. Alors, quand c'est des romans ados, notamment, un renouvellement formel à chaque fois, ça c'est important. C'est pas forcément le cas en junior ou en album, mais en tout cas, oui, en ado, c'est très très important.
Justement, quand on parle du secteur éditorial, bah, il y a pas mal de gens qui sont cités en tant que personnages de fiction, évidemment. C'est des gens qui t'ont lu. Là, le bouquin est sorti depuis plus d'un mois. T'as eu évidemment des retours de ces gens-là. Bon, dedans, il y avait tes éditeurs en même temps directement, mais t'as eu d'autres personnes peut-être qui sont revenues. C'est quoi le regard des gens un peu sur ton bouquin?
Des gens qui sont cités dedans? Oh, boy. La plupart l'ont bien pris. Il y en a certains qui l'ont pas bien pris.
Ah oui?
Ouais, bah oui, ça peut arriver.
On
dira pas les noms. Ça peut arriver. Je trouve, c'est vraiment des mentions qui sont très, très inoffensives. Hein. C'est pas, là, pour le coup, c'est pas du Carrère. C'est vraiment, contrairement, justement, à l'autofiction pour adultes, où parfois, on lit des autographies, on se dit, mais ils sont au courant que les amis
comment dedans, ils peuvent faire ça.
Et là, bon, bah, franchement, c'est des petites mentions assez, assez gentilles. En effet, les deux éditeurs, on les voit figurer beaucoup, beaucoup, mais par définition, eux, ils étaient très au courant.
Oui, et puis, j'imagine que là, il y avait leur rapport, ils connaissent mon écriture, ils connaissent l'humour, ils connaissent le décalage, et puis voilà.
Donc ça va. Non, c'est surtout pour ma famille, parce que eux, ils sont dedans sous forme de personnages qui, pour le coup, peuvent être très différents de leur vraie personne. Et voilà, mais bon, ils avaient lu les épreuves, hein, donc ils étaient au courant. Mais c'est des choses qui arrivent quand on est de la famille de quelqu'un qui écrit des livres, malheureusement, pour eux.
Et alors, raconte-nous un peu cette histoire de Marianne la Bonne Fée, parce que c'est étonnant, en fait, quand on, c'est pas un personnage dans, quand on pense au personnage de l'imaginaire, du fantastique, tout comme ça, c'est pas un personnage qui vient naturellement. Toi, tu le mets directement sur une, en plus, sur une période historique, le pauvre Louis XVII, on l'imagine trop dans son cachot tout pourri et tout ça, et c'est le début, en fait, de ton histoire que tu vas dénouer après, mais ça dénoue d'où cette
histoire? Et ben, justement, d'un étonnement que la Marianne la Bonne Fée ne soit pas plus présente dans les adaptations, dans les romans juniors, ados. C'est très étonnant parce que les vampires, les zombies, les princesses, les chevaliers, les machins, les trucs, les sorcières, évidemment, les licornes, les fées, exactement, les sirènes, etc., sont hyper présentes et hyper adaptées. Pourquoi la marraine la bonne fée, qui est quand même un élément clé de tellement de contes, en fait, a pas tellement fait l'objet de réécriture? Et au début, ça faisait des années que j'avais dans la tête d'écrire, alors plutôt un roman junior, qui soit centré sur le personnage des marraines la bonne fée, pour le coup pure fantasy, et qui se passe dans une école de marraines la bonne fée. Donc c'était une idée que j'avais, un peu à Harry Potter, mais assez plutôt rigolote. Et en fait, je l'ai jamais fait, et je pense que l'une des grandes raisons pour laquelle je le faisais pas, c'est que plus je tournais et retournais l'idée dans la tête, et plus je me disais qu'idéologiquement, en fait, c'est hyper problématique, le personnage.
Tu lis d'ailleurs dans le roman.
Ah, bah, je le dis.
Quand tu parles avec l'université, enfin, quand ton personnage parle avec l'universitaire, il y a tout cet aspect-là qui est...
Bah oui, parce qu'en réalité, quand on pense vraiment sérieusement à ce que c'est qu'une marraine la bonne fée, c'est littéralement une femme qui a des pouvoirs magiques, qui est, alors, embauchée, pas forcément compte de l'argent, mais en tout cas, que des rois, des reines, des nobles donnent à leur enfant, pour leur fournir des avantages, d'une certaine manière.
C'est pas hyper socialement...
C'est pas hyper... Bah ouais, et en fait, du coup, c'est assez compliqué à mettre en scène dans un roman junior, parce que qu'est-ce qu'il y aurait dans une école de Marraine la Bonne Fée, c'est comment apprendre à protéger au mieux les enfants par des pouvoirs magiques, ce qui peut être très rigolo, mais qui, en fait, idéologiquement, posait problème. Et c'est comme ça que ça s'est peu à peu mué en idée de roman ado beaucoup plus sombre, pour le coup, parce que le personnage des Marraines la Bonne Fée dans Les Facétieuses est pas du tout un personnage extrêmement agréable, loin de là, et c'est un personnage qui, par justement ces enchantements-là, perpétue une forme de privilège. Enfin, ça devient une espèce de symbole, hein, du privilège de l'aristocratie. C'est pour ça qu'elles sont éradiquées à la Révolution, qu'elles sont guillotinées, qu'elles s'enfuient, qu'elles perdent leur pouvoir, parce qu'elles sont vues comme le symbole des avantages de la noblesse. Et ça, je trouvais ça vachement intéressant, parce que d'un coup, ça fait basculer ce personnage dans le règne du politique, et il y a beaucoup plus de choses qui peuvent se mettre en place narrativement, enfin, qui, moi, m'intéressaient beaucoup plus. C'est pour ça que c'est devenu un roman, ado.
c'est aussi dans beaucoup de tes romans ados, c'est quelque chose qu'on retrouve, c'est-à-dire la présence de l'humour qui est très présente. Et puis très vite, on bascule quand même sur un ton, alors pas forcément plus grave, mais en tout cas des sujets qui permettent de traiter des idées, de mettre en avant des idées, voilà, des choses un peu plus sérieuses ou en tout cas plus réflexives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout ton travail, ça.
Oui, ouais, ouais, ben ça m'intéresse toujours qu'il y ait quand même un aspect, alors pas nécessairement politique, mais au moins social, dans une certaine mesure. Ouais, parce que la comédie, moi j'aime beaucoup ça, et c'est très important pour moi d'avoir l'humour comme objet, comme procédé, on va dire, mais le fond politique m'intéresse beaucoup. C'est ce que je faisais aussi dans Brexit Romance. Pour moi, Les Facétieuses est à la fois assez similaire à Brexit Romance en termes de satire sociale ou satire politique, et puis aussi évidemment il a des côtés d'un autre livre que j'avais écrit juste avant et qui m'a donné l'idée en réalité des Facétieuses, qui pour le coup était une vraie autobiographie, qui s'appelle Sainte Marguerite Marie et moi, où je parlais de mon ancêtre, qui est une espèce de sainte mystique du catholicisme, vraiment une figure très étonnante, et qui, Les Facétieuses, c'est un peu le double maléfique de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé avec une femme historique, mais alors pour le coup pas du tout, du tout de la même trempe, quoi.
Bon, bah, en tout cas, j'espère que ça a donné envie à tous nos auditeurs de découvrir ces Facétieuses. Donc, c'est sorti chez Sarbacane, dans la collection Exprimer Vie, évidemment. Avant de conclure, Clémentine, je voulais aussi te donner un petit truc sur ton travail de traductrice, puisque là, t'as quand même quelques belles sorties qui sont arrivées aussi. C'est une autre part de ton travail que les gens connaissent pas forcément. Là, notamment, t'as un Hotz qui vient de sortir, qui s'appelle Dans le Bleu.
C'est un livre magnifique qui était sorti déjà en français il y a quelques années, puis la traduction est épuisée, donc ils m'ont fait retraduire. Ça s'appelle Dans le Bleu, donc de Joyce Carol Oates. C'est un très beau livre, un peu en flux de conscience, très très moderniste, avec une jeune fille qui a un accident de voiture avec sa mère et qui va essayer de revivre ensuite avec une addiction un peu aux opioïdes, etc., qui est très intéressant littérairement parlant. Ça se passe en Amérique. Il y a De l'autre côté de l'eau, qui est le nouveau Elisabeth Acevedo, qui a un bouquin, mais... Il est émouvant, il est même éprouvant d'émotion.
Pour traduire, ça a dû être...
C'était intense, ouais, de traduire. Ouais.
Mais d'ailleurs, elle, déjà, il y a quelque chose comme dans son écriture, ouais, qui est fort, quand même.
Ouais, ouais, elle est intense, quand même. Et c'est l'histoire de deux filles, un accident d'avion entre les États-Unis et la République dominicaine. Voilà, chacune perd un père, et on découvre plus tard les liens qui les unissent toutes les deux, je veux pas trop en dire là-dessus. Et le troisième que j'ai...
Et elle retrouve la forme en vert aussi dans celui-là.
Ah oui, pardon, oui, c'est un roman en vert. Voilà. Et le troisième, que j'ai beaucoup aimé aussi, qui est aussi en vert, s'appelle Riposte, de Louisa Reed, qui est une autrice anglaise. J'étais tellement contente de retraduire de la littérature anglaise. J'aime bien les Américains, mais quand même, les Anglais, c'est mes chéris. Et donc là, c'est vraiment une petite gamine qui a 16 ans, qui est grosse et qui vit dans une ville d'Angleterre, vraiment... une ville assez lambda, qui est d'ailleurs jamais précisée, et en fait elle se met à la boxe, parce qu'elle est harcelée, mais aussi pour d'autres raisons qui sont très intéressantes. Elle vit avec ses parents qui sont adorables, hyper attachants, et la mère a une voix narrative importante, ce qui est assez rare en jeunesse. Et donc voilà, cette jeune fille grosse va se mettre à la boxe et avoir tout un parcours de sportive au fil du bouquin.
Bon, ben merci Clémentine pour tous ces beaux conseils, merci d'avoir accordé un petit peu de ton temps pour cette interview.
Avec plaisir,
voilà, j'espère que vous aurez envie de lire du Clémentine Beauvais. En tout cas, nous, on vous le conseille fortement. Et on se retrouve pour une autre chronique.
Et oui, Simon, on se retrouve pour une autre chronique. C'était un très beau moment passé avec Clémentine. C'était un vrai plaisir de la recevoir à la librairie et de l'interroger autour de ses Facétieuses. Vous l'avez lu, Véro, aussi.
Oui,
hein, vous avez beaucoup aimé.
Très...
C'est un livre un peu fou, quand même.
Complètement fou.
C'est ça. Hein, c'est-à-dire que c'est du début à la fin, en fait, on va de surprise en surprise,
exactement.
À la fois dans la forme, dans ce qui est raconté, dans le fond, mais aussi dans la forme. Voilà, c'est tout le talent de Clémentine Beauvais.
Une créatrice de genre et de texte incroyable.
Donc, si vous n'aviez pas compris, nous vous conseillons ce livre qui s'appelle Les Facétieuses. C'est publié dans la collection Exprime chez Sarbacane.
Toujours avec une playlist aussi.
Comme d'habitude dans la collection. Et puis un petit clin d'œil à Thibaut Bérard qui est parti travailler sur une autre forme de création, sa propre création littéraire. Thibaut Bérard, c'est le fondateur de la collection Exprime chez Sarbacane. Et là, il vient de passer le relais à Julia Thévenot, qui est citée. Les deux sont cités dans le livre de Clémentine, c'est pour ça que je leur fais un petit coucou en passant. Allez, on va finir l'émotion encore. L'émission avec quelques coups de cœur. Véro, vous vouliez nous présenter un autre roman.
Alors, vite fait.
On reste dans le fantastique un petit peu.
Oui, c'est vrai. Possession de Moka, chez à l'école des loisirs.
Il y a moins de marraines,
il y a
fées.
Pas tellement de fées, non. Oui, non, ça manque un peu. Chez Medium Plus, donc c'est Malo, une dizaine d'années. Il revient chez lui après 2 mois d'absence passée en maison de repos, entre guillemets, enfin en hôpital psychiatrique, suite à une fugue psychotique. Alors c'est comme ça que le disent les médecins, déclenchée par la mort de sa grande sœur Lutèce, tombée mystérieusement du toit de leur maison où la famille venait d'aménager. C'est drôle dès le départ. Hein. Il retrouve sa mère très perturbée, son père très absent et sa sœur Clélia, la jumelle de Lutèce, agressive et très secouée. Ils paraissent tous sous l'emprise de forces émanant de la maison. Des phénomènes inquiétants et inexpliqués se produisent la nuit. Heureusement, à l'école, Malo rencontre Alice, une fille téméraire qui croit ce qu'il lui raconte et tente de l'aider à creuser le mystère. Pourtant, la maison semble se refermer sur les habitants, surtout depuis que sa mère souhaite que Malo reste à la maison pour lui faire l'école à domicile. Donc c'est un roman très dynamique, malgré la situation grave et plombante, quand même, il faut le dire. Il y a une enquête menée énergiquement par Alice et sa sœur, qui est une future journaliste, et que nous accompagnons dans les tréfonds de l'histoire. En plus, on va vraiment se balader dans l'histoire et de l'histoire de la maison, et dans la noirceur de l'âme humaine. C'est passionnant.
Et c'est pas gay.
C'est pas gay, mais c'est passionnant.
Bah, c'est Moka. Elle écrit quand même très très bien. Allez, pour faire venir avec ses romans, moi je voulais vous présenter un roman ado, enfin un roman, un livre OVNI, encore un. Décidément, aujourd'hui j'avais envie de présenter des livres un petit peu OVNI. C'est entre le roman, la bande dessinée, le manga, c'est un peu tout ça.
C'est
un
livre illustré. C'est des livres qui sont faits par des faits.
C'est un livre illustré qui s'appelle Émergence 7. C'est un livre qui est écrit par Vincent Mondiaux. Vincent Mondiaux qui a remporté le prix Vendredi il y a 2 ans maintenant, et illustré intégralement par Enora Sabi. Alors attention, quand je parle d'illustration, c'est-à-dire qu'on n'est pas une petite image de temps en temps à travers le texte, c'est-à-dire que toutes les pages sont illustrées, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'illustration avec du texte qui vient dessus, ce qui fait que c'est un ouvrage que je... une forme que je n'avais jamais vue. J'avais vu des textes avec de l'illustration, des parties que illustration. Là, tout est mélangé. Ce n'est pas de la bande dessinée, c'est du texte illustré, on va dire.
Vous ne savez pas ce que c'est, quoi.
Non, je ne sais pas ce que c'est et on s'en fout un peu, oui, puisque c'est très beau. Ouais, c'est ça qui compte. Ça. Et Émergence 7, en plus, c'est un roman dystopique. En tout cas, c'est pas un roman dystopique, c'est plutôt une espèce de grande fresque apocalyptique. Voilà, c'est plutôt ça. D'accord. En fait, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon, Léon. Léon, quand on commence l'histoire, il attend un bateau. On comprend qu'il habite sur une île. Et puis avec ses amis de cette île, ils attendent le bateau qui va les emmener dans leur collège qui est sur la Terre.
Continent.
Voilà, sur le continent. Sauf que ce bateau ne viendra jamais et une partie de l'île sera détruite par une espèce de grande créature monstrueuse. Mm-hmm. Alors on est vraiment dans l'esprit des grandes bébêtes japonaises type Gondola,
voilà. Ah oui, vous
voyez.
Oui, je vois bien.
Il y a le côté Godzilla qui est très présent. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai dit, Gorgonzola, c'est le fromage. Ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus inquiétant que le fromage.
Quoique.
En tout cas, on va suivre cette histoire par le biais des souvenirs de Léon, parce que Léon, le narrateur, a maintenant 20 ans de plus et il revient pour la première fois sur les
Donc
lieux
il a
de cette île.
Survécu à la créature.
On peut se douter que lui a survécu, en tout cas, lui a survécu.
D'accord.
En tout cas, c'est un très beau récit apocalyptique. C'est vraiment, en même temps, il y a beaucoup d'intime dans cette histoire. Il y a beaucoup de liens d'amitié avec les différents personnages. Il y a aussi un vrai récit qui parle de comment sauver sa peau, tout simplement. Donc, ça se lit comme un thriller. Mmh. Enfin, c'est passionnant. Et puis, le dessin
c'est quand même incroyable.
D'Enora Sabi. Tout au long du roman, en fait, ça. On sent qu'elle vient de l'animé, on sent qu'il y a quelque chose qui est très cinématographique dans son dessin. Et puis de le voir accompagner comme ça un roman apocalyptique, c'est magnifique. Enfin, c'est une vraie expérience de lecture. Donc je vous conseille fortement ce Émergence 7 de Vincent Mondiaux et Enora Sabi. C'est publié chez Actes Sud Junior et ça vaut le détour. Allez, on va finir comme d'habitude cette émission avec une petite chronique BD très rapide. Cette fois-ci, j'ai décidé de mettre en avant une nouvelle collection et un nouvel éditeur qui arrive en bande dessinée. Cet éditeur, on le connaît, c'est Nathan. Nathan a ouvert une filiale bande dessinée. Il a demandé à Karine Leclerc, qui est une éditrice qu'on connaît bien, qui a travaillé notamment chez Bayard, chez Glénat, de créer ce pôle Nathan BD. Et donc là, vont arriver ou arrivent en ce moment plein de bandes dessinées. Alors pour tous les âges, hein, ça va vraiment de la BD sans texte. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, à de la BD pour ados, pour adultes, de l'histoire pour 8-12 ans. Pour l'instant, tout ce qui est sorti, c'est juste magnifique. Enfin, c'est vraiment, on sent que c'est pensé, c'est une vraie réussite. Ça va chercher des endroits où il n'y a pas grand-chose. Et moi, je voulais vous mettre l'accent sur une petite collection qui s'appelle Minibulle. Alors, Minibulle, ce sont des albums de bande dessinée pour les tout-petits, à partir de 2-3 ans. C'est des albums sans texte. Alors, moi, j'étais très, très fan d'un personnage qui s'appelle Polo, de Régis Fallaire, qui était publié chez Bayard. C'était des tout petits livres cartonnés comme ça, sans texte. Et je trouve qu'il y avait une espèce de poésie dans ces histoires qu'on a du mal à retrouver. On l'a un petit peu chez au petit poilu, en fait, Bailly, chez Dupuis. Mais, et puis à La Gouttière aussi, ils font un petit peu des bandes dessinées sans texte, mais finalement assez peu. Et quand on voit le succès de Petit Poilu, on se disait, mais pourquoi il n'y en a pas d'autres? Eh bien voilà, Nathan le fait. Ils arrivent avec toute une collection de nouveaux auteurs. Alors des auteurs qui viennent soit de la jeunesse, déjà reconnus, soit d'autres milieux qu'on ne connaissait pas. Les quatre premiers titres, excusez du peu, il y a quand même Édouard Manceau dedans, avec C'est dans la boîte. Il y a Matisse avec Coco et Moumouche. Et puis des petits nouveaux, il y a Caroline Romanet et Magali Clavelet qui sort un magnifique rôle noisette. Et puis Jane Massey, c'est une Anglaise qui nous offre une petite petiote. C'est très très mignon. À chaque fois, c'est des styles différents. Il y a de la poésie, il y a de la tendresse, il y a de l'humour, il y a du cartoon. Voilà, donc les quatre premiers titres donnent vraiment très envie. Pour les enfants les plus jeunes, à partir de 3 ans, vous savez, ceux qui piquent toutes vos BD et puis vous agacez un peu, qui piquent votre BD, et bien là, ils vont pouvoir lire des choses pour leurs. Ils pourront les regarder.
Nous, on les piquera.
Et nous, on les piquera. Ouais. Et puis, vous verrez que vos enfants sont capables de lire beaucoup mieux les images que vous.
Oui.
Ils vous mettront des mots sur tout ce qui se passe. Ils iront voir des petites choses. En tout cas, c'est délicieux. Et c'est vraiment une collection qu'on va suivre avec beaucoup d'attention. Ça s'appelle Minibulle chez Nathan.
Chez Nathan BD.
On vous reparlera évidemment de Nathan BD parce qu'il y a plein de choses très, très intéressantes qui vont arriver. Allez, on se quitte là pour cette émission de rentrée. Merci beaucoup Véro de nous avoir accompagnés. Merci Clémentine de nous avoir accordé cette interview d'où tu nous entends. Merci Philippe d'avoir fait le son comme d'habitude, excellent le son. On va se quitter en musique, évidemment avec le final, le grand final de Peau d'Âne. Clémentine, c'est pour toi, je sais que tu adores Peau d'Âne.
C'est quand il y a l'hélicoptère qui arrive.
C'est ça, c'est cette fin un peu étonnante.
Ça, c'est fou.
Complètement folle. Ben, la musique de Michel Legrand est folle, elle nous en met une dernière fois. Allez. On vous souhaite plein de belles lectures et on se dit au mois prochain.
Au revoir Monsieur Simon.